Des prophéties. Il résulte du chapitre qui précède que des prophètes n'eurent pas en partage une âme plus parfaite que celle des autres hommes, mais seulement une puissance d'imagination plus forte. C'est aussi ce que nous enseignent les récits de l'Écriture. Il est certain, en effet, que Salomon excellait entre les hommes par sa sagesse. Il ne l'est pas qu'il eut le don de prophétie. Héman, Darda, Calchon étaient des hommes d'une profonde érudition, et cependant, ils n'étaient pas prophètes. Au lieu que des hommes grossiers, sans lettres, et même des femmes, comme Agar, la servante d'Abraham, jouirent du don de prophétie. Tout ceci est parfaitement d'accord avec l'expérience et la raison. Ce sont en effet les hommes qui ont l'imagination forte qui sont les moins propres aux fonctions de l'entendement pur, et réciproquement, les hommes éminents par l'intelligence ont une puissance d'imagination plus tempérée, plus maîtresse d'elle-même, et ils ont soin de la tenir en bride afin qu'elle ne se mêle pas avec les opérations de l'entendement. Ainsi, c'est s'abuser totalement que de chercher la sagesse et la connaissance des choses naturelles et spirituelles dans le livre des prophètes. Et puisque l'esprit de mon temps, la philosophie et la chose elle-même m'y invitent, j'ai dessein de démontrer ici ce principe tout à mon aise, sans m'inquiéter des cris de la superstition, cet ennemi mortel de tous ceux qui aiment la science véritable et mènent une vie raisonnable. Hélas, je le sais, les choses en sont venues à ce point que les hommes qui osent dire ouvertement qu'ils n'ont point l'idée de Dieu et qu'ils ne connaissent Dieu que par les choses créées, dont les causes leur sont inconnues, ne rougissent pas d'accuser les philosophes d'athéisme. Mais quoi qu'il en soit, je poursuis, et pour procéder avec ordre, je vais démontrer que les prophéties ont varié non seulement suivant l'imagination de chaque prophète et le tempérament particulier de son corps, mais aussi suivant les opinions dont les prophètes étaient imbus. D'où je conclus que le don de prophétie ne rendit jamais les prophètes plus instruits qu'ils n'étaient. Ce que je me réserve d'expliquer plus loin avec étendue. Mais je veux traiter d'abord de la certitude des prophètes, parce que mon sujet m'impose d'abord cette question, et de plus, parce qu'une fois résolue, elle me servira à établir la conclusion dont je viens de parler. L'imagination pure et simple, n'enveloppant point en elle-même la certitude à la façon des idées claires et distinctes, il s'ensuit que pour être certain des choses que nous imaginons, il faut que quelque chose s'ajoute à l'imagination, savoir le raisonnement. Par conséquent, la prophétie par elle-même n'implique pas la certitude, puisque la prophétie, ainsi que nous l'avons démontré, dépend de la seule imagination. D'où il résulte que les prophètes n'étaient pas certains de la révélation divine par la révélation elle-même, mais par quelques signes, comme on peut le voir dans la Genèse, chapitre 15, verset 8, où Abraham, après avoir entendu la promesse que Dieu lui faisait, lui demanda un signe. Assurément, il croyait en Dieu et avait foi en sa promesse, mais il voulait être assuré que Dieu la lui faisait effectivement. Cela est plus évident encore pour Gédéon. « Fais-moi, dit-il à Dieu, un signe, afin que je sache que c'est toi qui me parles. » Voyez Juges, chapitre 6, verset 17. Dieu dit aussi à Moïse, « Et que ceci te soit un signe que c'est moi qui t'ai envoyé. » Ézéchias, qui savait depuis longtemps qu'Isaïe était prophète, lui demanda néanmoins un signe de la guérison qu'il lui prédisait. Tout cela fait donc bien voir que les prophètes ont toujours eu quelques signes qui les rendaient certains des choses qu'ils imaginaient prophétiquement, et c'est pour cette raison que Moïse, voyez Deutéronome chapitre 18, dernier verset, commande aux Juifs de demander aux prophètes un signe, c'est-à-dire la prédiction de quelque événement sur le point de s'accomplir. Par cet endroit, la connaissance prophétique est donc inférieure à la connaissance naturelle, qui n'a besoin d'aucun signe, et de sa nature enveloppe la certitude. Du reste, cette certitude des prophètes n'était point mathématique mais morale, et je le dis en me fondant sur l'Écriture. Moïse, en effet, ordonne que l'on punisse de mort le prophète qui voudra enseigner le nouveau Dieu, bien qu'il confirme sa doctrine par des signes et des miracles. Deutéronome, chapitre 14. Car, dit-il, Dieu fait aussi des miracles et des signes pour tenter son peuple. Et c'est aussi ce dont Jésus-Christ a soin d'avertir ses disciples. Matthieu, chapitre 24, verset 24. Ézéchiel va plus loin. Il dit en propres termes, chapitre 16, verset 8, que Dieu trompe quelquefois les hommes par de fausses révélations. Et quand un prophète, il s'agit ici d'un faux prophète, se montre et vous adresse quelques paroles, c'est moi qui envoie ce prophète. Et ce témoignage est confirmé par celui de Michée, touchant les prophètes d'Akab, Rois, livre 1, chapitre 22, verset 21. Quoique ces passages semblent établir que la prophétie et la révélation sont choses fort douteuses, elles avaient pourtant beaucoup de certitudes, Dieu ne trompant jamais les justes ni les élus. Mais, suivant cet ancien proverbe cité par Samuel, 1, chapitre 24, verset 13, et comme le fait bien voir l'histoire d'Abigaïl, Dieu se sert des bons comme d'instruments de sa bonté, et des méchants comme de moyens et d'instruments de sa colère. Ce qui se confirme plus clairement par le témoignage de Michée que nous avons cité tout à l'heure. Car bien que Dieu eût résolu de tromper Achab, il ne servit pour cela que de faux prophètes, et découvrit la vérité aux prophètes pieux, sans l'empêcher nullement de la prédire. Mais avec tout cela, il n'en est moins pas vrai que la certitude des prophètes était purement morale, nul ne pouvant, comme l'enseigne l'Écriture, se déclarer juste devant Dieu, ni se vanter d'être l'instrument de sa miséricorde. Et David lui-même fut poussé par la colère de Dieu au dénombrement de son peuple, bien que l'Écriture rende hommage en plusieurs endroits à sa piété. Ainsi donc, toute la certitude des prophètes était fondée sur ces trois choses. Premièrement, en ce qu'ils imaginaient les choses révélées avec une extrême vivacité, analogue à celle que nous déployons dans les songes. Deuxièmement, ils avaient un signe pour confirmer l'inspiration divine. Troisièmement, leur âme était juste et n'avait d'inclination que pour le bien. Quoique l'Écriture ne fasse pas toujours mention du signe, il y a lieu de croire que les prophètes avaient toujours un signe. Car l'Écriture, d'ordinaire, comme plusieurs l'ont déjà remarqué, ne fait pas toujours mention de toutes les conditions et circonstances des choses, les supposant suffisamment connues. Ajoutons à cela que nous pouvons parfaitement accorder que les prophètes qui n'avaient rien à prédire de nouveau et qui ne fut contenu dans la loi de Moïse n'avaient pas besoin de signes, parce que l'Écriture était là pour confirmer leurs paroles. Par exemple, la prophétie de Jérémie sur la ruine de Jérusalem étant confirmée par celle des autres prophètes et par les menaces de la loi n'avait pas besoin d'un signe. Ananias, au contraire, qui prophétisait, contre le sentiment de tous les autres prophètes, la prochaine restauration de la cité, avait absolument besoin d'un signe. Autrement, il aurait dû douter de sa prophétie jusqu'à ce qu'elle se fût confirmée par l'événement. Voyez Jérémie, chapitre 28, verset 8. Puisque la certitude que les signes donnés aux prophètes n'était pas une certitude mathématique, comme celle qui résulte de la nécessité même de la perception de la chose perçue, mais seulement morale, et que les signes n'avaient d'autre objet que de persuader le prophète, il s'ensuit que ces signes ont dû être proportionnés aux opinions et à la capacité de chacun. De telle sorte qu'un signe, qui avait rendu tel prophète parfaitement certain de sa prophétie, aurait lancé dans la certitude tel autre prophète un but d'opinion différente. Et de là vient qu'il y avait pour chaque prophète un signe particulier. Il en était de même de la révélation, qui variait pour chaque prophète suivant la disposition de son tempérament, de son imagination, et suivant les opinions qu'il avait embrassées. Quant au tempérament, si le prophète était d'une humeur gaie, il ne lui était révélé que victoire, paix, et tout ce qui porte les hommes à la joie, les tempéraments de cette sorte n'imaginant le plus souvent que des choses semblables. Si le prophète était triste, il prédisait des guerres, des supplices et toutes sortes de malheurs. Et de cette façon, suivant que le prophète était d'humeur douce, irritable, sévère, miséricordieuse, etc., il était plus propre à telle ou telle espèce de révélation. Les dispositions de l'imagination étaient encore une cause de variété dans les prophètes. Si le prophète avait l'imagination belle, c'est en beau style qu'il communiquait avec l'âme de Dieu. S'il l'avait confuse, c'était en confuse parole, et de même pour le genre d'image qui lui apparaissait. Le prophète était-il un homme des champs? C'était des bœufs, des vaches, etc. Homme de guerre, c'était des généraux, des armées. Homme de cour, des trônes et des objets analogues. Enfin, la prophétie variait suivant les opinions des prophètes. Aux mages qui croyaient aux rêveries de l'astrologie, voyez Matthieu chapitre 2, la nativité du Christ fut révélée par l'image d'une étoile qui apparaissait dans l'Orient. Aux augures de Nabucodonosor, voyez Ézéchiel chapitre 21 verset 26, ce fut dans les entrailles des victimes que leur fut révélée la dévastation de Jérusalem, que ce roi connut aussi par les oracles et la direction des flèches qu'il jeta en l'air au-dessus de sa tête. Quant aux prophètes, qui croyaient que les hommes ont le libre choix de leurs actions et une puissance propre, Dieu se révélait à eux comme indifférent à l'avenir et ignorant les futures actions des hommes, toutes choses que nous allons démontrer, l'une après l'autre, par l'Écriture. Le dernier point de notre doctrine est établi par Élisée, Roi, livre 4, chapitre 3, verset 15. Qui, pour prophétiser à Jéhoram, demanda une harpe et ne put percevoir la volonté de Dieu que lorsque la musique eut charmé ses sens. mais après avoir entendu les sons de la harpe, il put prédire à Jehoram et à ses alliés des événements heureux, ce qu'il avait été incapable de faire auparavant étant irrité contre Jehoram. Car on sait que ceux qui sont en colère contre une personne sont plus disposés à imaginer des choses désagréables pour elle que des choses heureuses. Quelques-uns même ont bien voulu dire que Dieu ne se révèle pas aux hommes irrités et tristes, mais cette opinion est chimérique. Car Dieu révéla à Moïse, irrité contre Pharaon, le massacre épouvantable des premiers-nés. Voyez Exode chapitre 11, verset 8. Et cela, sans le secours d'aucun instrument de musique. Dieu révéla aussi l'avenir à Caïn furieux. L'obstination des Juifs fut révélée à Ézéchiel, tandis qu'impatient de sa misère, son âme était pleine d'irritation. Voyez Ézéchiel, chapitre 3, verset 14. Jérémie, le cœur plein de tristesse et d'un immense ennui de la vie, prophétisa les malheurs de Jérusalem, et ce fut à cause de cette tristesse que Josias ne voulut pas le consulter. Il préféra une femme de ce temps que sa constitution même de femme rendait plus propre à lui révéler la miséricorde de Dieu. Paralipomène, Pomène, livre 2, chapitre 35. Michée ne prédit jamais rien de bon à Akab, quoique d'autres vrais prophètes l'aient pu faire. Roi, livre 20, chapitre 20. Mais au contraire, il lui prédit du mal pour toute sa vie. Voyez Roi, livre 1, chapitre 22, verset 7. Et plus clairement encore dans les Paralipomènes, livre 2, chapitre 18, verset 7. Je conclus que les prophètes étaient par leur tempérament plus ou moins propres à telle ou telle espèce de révélation. Le style des prophètes variait avec le degré d'élégance de chaque prophète. Les prophéties d'Ézéchiel et d'Amos, dont le style a quelques rudesses, n'ont pas l'élégance de celles d'Isaïe et de Nachoum. Il sera intéressant pour ceux qui savent l'hébreu d'examiner de près et de comparer entre eux quelques chapitres de divers prophètes aux endroits où ils parlent sur le même sujet, ce qui laisserait mieux voir la différence de leur style. Par exemple, le chapitre 1er d'Ésaïe, qui était un homme de cour, du verset 11 au verset 20, avec le chapitre 5 du rustique Amos, du verset 21 au verset 24. On pourrait comparer aussi l'ordre et les pensées de la prophétie écrite à Édom par Jérémie, chapitre 29, avec l'ordre et les pensées d'Obadias. Une autre comparaison à faire est celle d'Isaïe, chapitre 40, verset 19, 20, chapitre 44, verset 8, avec Osée, chapitre 8, verset 6, chapitre 13, verset 2, et de même pour tous les autres prophètes. Si l'on veut bien peser tout cela, on s'assurera aisément que Dieu n'a aucun style particulier, et que suivant le degré d'instruction et la portée d'esprit du prophète qui l'inspire, il est tour à tour élégant et grossier, précis et prolixe, sévère et confus. Les représentations prophétiques et les hiéroglyphes variaient également, même pour exprimer une même chose, car la gloire de Dieu abandonnant le temple n'apparut pas à Isaïe de la même façon qu'à Ézéchiel. Les rabbins prétendent que chacune de ces représentations fut identique à l'autre, mais qu'Ézéchiel, homme grossier, en ayant été plus frappé, l'a raconté dans toutes ses circonstances. Cette explication est à mes yeux toute artificielle, à moins que les rabbins n'aient recueilli une tradition certaine du fait lui-même, ce que je ne crois pas. En effet, Isaïe vit des séraphins à 6 ailes et Ézéchiel des bêtes à 4 ailes. Isaïe vit Dieu avec des vêtements et assis sur un tronc royal, et Ézéchiel le vit semblable à une flamme. Il n'y a pas de doute que l'un et l'autre virent Dieu, suivant les habitudes particulières de leur imagination. Les représentations ne variaient pas seulement de nature, mais elles avaient des degrés divers de clarté. Celles de Zacharie furent tellement obscures, d'après son propre récit, qu'il fut incapable de les comprendre sans une explication. Et Daniel, même avec une explication, ne put comprendre les siennes. Or, il ne faut point attribuer cette obscurité à la difficulté inhérente à la révélation elle-même, car il s'agissait de choses purement humaines et qui ne surpassaient pas les facultés de l'homme qu'à cause qu'elles étaient dans l'avenir. Mais il faut dire que l'imagination de Daniel n'avait pas une aussi grande vertu prophétique dans la veille que dans le sommeil, ce qui devient très visible dès le commencement de la révélation de Daniel, où il est tellement effrayé qu'il désespère presque de ses forces. Cette faiblesse d'imagination, ce défaut d'énergie, rendirent ses apparitions très obscures, et même avec une explication, il fut incapable de les comprendre. Et il faut remarquer ici que les paroles entendues par Daniel furent, comme nous l'avons montré plus haut, des paroles toutes imaginaires. Ce qui explique fort bien qu'ayant l'esprit troublé, il n'ait imaginé toutes ces paroles qu'une façon très obscure, et n'ait pu ensuite y rien comprendre. Ceux qui disent qu'ils n'entraient pas dans les desseins de Dieu de révéler clairement la chose à Daniel n'ont pas lu, sans doute, les paroles de l'ange qui dit expressément, voyez chapitre 10, verset 14, que « Il est venu pour faire comprendre à Daniel ce qui arrivera à son peuple dans la suite des jours. » Cette prophétie est donc restée obscure, parce qu'il ne se rencontra personne en ce temps-là qui eût l'imagination assez forte pour qu'elle lui fût révélée plus clairement. Nous voyons enfin le prophète à qui Dieu avait révélé qu'il enlèverait Élie, de vouloir persuader à Élisée qu'Élie avait été transporté en un lieu où il pourrait le retrouver, ce qui prouve bien qu'ils n'avaient pas compris la révélation que Dieu leur avait faite. Il est inutile que je m'arrête à démontrer cela avec plus d'étendue, car si quelque chose résulte clairement de l'Écriture, c'est que Dieu n'accordait pas au même degré le don de prophétie à ses prophètes. Mais quant à ce principe que ces prophéties ont varié avec les opinions du prophète, et que les prophètes avaient des opinions diverses et même contraires, et une grande variété de préjugés, je ne parle ici que de ceux qui regardent les choses purement spéculatives, car pour les choses relatives à la probité et aux bonnes mœurs, il en va tout autrement. C'est ce que je vais rechercher avec plus de curiosité et établir plus au long. Car la chose est, je crois, de grandes conséquences, et je prétends conclure de là que les prophéties n'ont jamais rendu les prophètes plus instruits qu'ils n'étaient auparavant, et les ont toujours laissés dans leurs préjugés antérieurs, d'où il suit que nous ne devons nullement nous considérer comme liés par les prophéties en matière de choses purement spéculatives.